Vous écoutez
RMC. RMC, Apolline Matin.
Le journal de Quentin Vinet. Bonjour Quentin.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. C'est enfin le début de la Coupe du Monde pour l'équipe de France. Premier match ce soir pour nos Bleus contre le Sénégal. Les Bleus qui sont à New York et on va vous donner les toutes dernières informations dès le début de ce journal. On sera aussi à Évian pour la deuxième journée au sommet du G7. Il sera question de la guerre en Ukraine aujourd'hui. Et vous allez voir que le monde est actuellement en pleine bascule. On apprend ce matin que désormais, on s'informe davantage via Facebook et TikTok que par les médias traditionnels.
Et on va enfin voir les Bleus à la Coupe du Monde.
RMC,
radio officielle de la Coupe du Monde de la FIFA 2026.
C'est long, hein, à chaque fois, entre l'annonce de la liste, les matchs de préparation, le voyage vers les États-Unis. Et donc, ça commence enfin. La France joue ce mardi son premier match du mondial contre le Sénégal. Ce sera à 21h au stade de New York, juste à côté d'ailleurs du studio de RMC. On est vraiment aux premières loges pour tout vous raconter de cette journée qui va nous mener jusqu'au match des Bleus ce soir. Jean-Louis Tour, c'est vous qui allez le commenter. Vous êtes en direct avec nous ce matin. Dites-nous à quoi va ressembler la journée des Français.
Alors, une journée inhabituelle, car horaire inhabituel car il sera 15h dans le New Jersey au moment du coup d'envoi. Alors on change quelques habitudes. La dernière séance vidéo qui habituellement est organisée le matin du match a été avancée à hier soir à l'hôtel des Bleus. Autre changement, le réveil musculaire a été tout simplement supprimé. Pour le reste, Deschamps a tenu à préserver une certaine routine. Petit déjeuner, puis déjeuner tout de même assez tôt avec l'ensemble du groupe avant une courte sieste indispensable selon le staff, même avec un match à 15h. Petite collation juste après pour ceux qui le souhaitent. Et puis viendra le moment des dernières consignes du sélectionneur, l'occasion peut-être de remobiliser les joueurs, de rappeler la compo d'équipe avec les quatre attaquants, Mbappé, Dembélé, Olise et Doué. Et puis départ vers 13h, heure de New York, car le staff des Bleus souhaite arriver au MetLife Stadium 1h30 avant le coup d'envoi et qu'il faut compter une trentaine de minutes de route depuis l'hôtel des Bleus.
21h, donc ce coup d'envoi, en votre compagnie, Jean-Louis Tour, en direct de New York pour RMC. Tiens, New York où des supporters français se sont rassemblés il y a quelques heures, c'était à Times Square, parce qu'il y a de l'impatience. Ça fait des mois qu'on en parle de cette Coupe du Monde, comme ici, vous allez l'entendre à Évreux, dans la ville d'Ousmane Dembélé, qui a vu passer plein de joueurs de l'équipe de France, Thomas Chupin.
Et on le comprend très vite ici, nous sommes avec les successeurs de grands noms du football. Hein.
Dembélé, Upamecano, Steve Mandanda, Brissamba... Mathieu Bonner, il n'a pas joué en équipe de France.
Il y aura forcément des jaloux, parce qu'un nom est crié plus fort que les autres. L'attaquant des Bleus, un modèle pour ces jeunes de l'équipe d'Evreux des moins de 13 ans.
Allez, checkez-vous une dernière fois.
C'est fin, tu peux crocher.
Ses petits ponts, ses crochets, son pressing.
Il a le ballon d'or là. Il y a des gens, ils disaient qu'il était nul maintenant. Ils sont là maintenant, ils reviennent bizarrement.
Alors forcément, il y a quelques sélectionneurs ici.
Il faut que Didier Deschamps le mette avec ses gars du PSG, comme ça il sait comment ils sont. Faut pas qu'il le mette avec Mbappé parce que ils sont en embrouille, voilà.
Oui, parce qu'il y a débat. Qui est le meilleur, Mbappé, Dembélé? Ce soir, c'est bien pour le deuxième que va vibrer Maé.
Dembélé fait plus le pressing, les retours défensifs, il est moins égoïste qu'Mbappé.
Alors Jaden en est persuadé, ce soir Dembélé va entamer une Coupe du Monde record.
8 buts et 6 passes D.
Et en bonus, on a même le scénario du but final.
Il traverse le terrain, il dribble le goal, il fonce le défenseur et il marque après.
Et voilà, hein, on verra si ça se passe comme ça ce soir à 21h. Pourquoi pas, hein, on a vécu pas mal de surprises là depuis hier. Et alors la dernière, elle est tombée cette nuit, Virginie Fulpin pour RMC. C'est la Tunisie qui change carrément de sélectionneur en pleine Coupe du Monde. Sabri Lamouchi, donc viré après la défaite des Tunisiens au premier match et remplacé par quelqu'un qu'on connaît bien, à savoir Hervé Renard.
Oui, on a déjà vu sa célèbre chemise blanche sur les bancs de nombreuses sélections. Il va disputer sa 4e Coupe du Monde avec 4 équipes différentes. Le Maroc en 2018, l'Arabie Saoudite en 2022, avec au passage une victoire sur l'Argentine de Lionel Messi, et puis l'équipe de France féminine il y a 2 ans. Hervé Renard a aussi gagné 2 Coupes d'Afrique des Nations, d'abord avec la Zambie, puis avec la Côte d'Ivoire, donc on peut dire qu'il a vu du pays. Il va monter dans l'avion dès ce matin, un vol direct Paris-Monterrey, il va diriger son premier entraînement avec la Tunisie dès ce soir. Pas le temps de se poser de questions. C'est peut-être mieux comme ça parce que l'entraîneur français arrive en terrain miné. La sélection tunisienne a la tête sous l'eau depuis sa déroute 5-1 face à la Suède pour son entrée dans cette Coupe du Monde. La fédération a tout de suite publié un communiqué pour annoncer le limogeage de Sabri Lamouchi avant de retirer cette publication des réseaux. Finalement, le limogeage a bien eu lieu et Hervé Renard va jouer les pompiers de service le temps de la Coupe du Monde. Il a 2 matchs pour convaincre contre le Japon et les Pays-Bas.
Et alors les yeux du monde entier étaient rivés cette nuit sur le match nul de l'Iran. rangs de partout contre la Nouvelle-Zélande. À la fin de ce match, le sélectionneur iranien a dit que son équipe était, je cite, la plus maltraitée de cette Coupe du Monde. Il y a des sifflets qui ont été entendus dans le stade de Los Angeles pendant que l'hymne iranien a été joué à Los Angeles, où se jouait ce match de l'Iran dans le contexte que vous connaissez de la guerre avec les États-Unis. Alors un accord a été annoncé dans la nuit de dimanche à lundi pour y mettre fin à cette guerre au Moyen-Orient. Et c'est seulement hier soir que Donald Trump a réagi et promis une réouverture totale vendredi du détroit d'Hormuz. Il l'a dit depuis le sommet du G7 qui se déroule là pendant 3 jours à Evian. Vous y êtes en direct pour RMC, Rachel Sadodine, on vous retrouve ce matin. Et aujourd'hui, il sera question de la guerre en Ukraine.
Oui, le président ukrainien est attendu d'ici un peu moins d'une heure ici à Evian, où il devrait être accueilli en personne par Emmanuel Macron. Signe que, et Volodymyr Zelensky le sait, l'Ukraine peut compter sur le soutien de ses alliés européens et britanniques. C'est donc le président américain qu'il faut maintenant convaincre, car les relations sont parfois tendues avec Donald Trump, que Volodymyr Zelensky a d'ailleurs accusé dans un sourire d'accaparer tous les hélicoptères pour venir au G7. Le président ukrainien a donc indiqué qu'il se rendrait à Evian par ses propres moyens. Arrivé lui dès hier au bord du lac Léman, Donald Trump s'est targué d'avoir eu une très bonne conversation dimanche avec ses homologues ukrainiens et russes. Lui qui a à plusieurs reprises affiché une forme de fascination pour Vladimir Poutine. Volodymyr Zelensky espère donc obtenir un entretien bilatéral avec le président américain dans la foulée de la réunion de travail consacrée à la paix en Ukraine qui occupera une bonne partie de la matinée.
Et ne manquez pas mon invité à 8h30 dans le face-à-face, ce sera Thierry Breton, l'ancien commissaire européen et ancien ministre de l'économie. Rendez-vous à 8h30 sur RMC BFM TV.
La Corse, ça ce sera le dossier du jour à l'Assemblée nationale. Les députés vont examiner le projet de loi qui prévoit de modifier la Constitution pour accorder à l'île un statut d'autonomie dans la République. Revendication de longue date des nationalistes, mais sans que l'on ne sache encore quel sera le périmètre précisément de cette autonomie. Il y a un changement qui est déjà amorcé, je vous le disais, et ça concerne la façon dont on s'informe. Nous sommes en ce moment à une grande bascule, Romain Hougue. Un rapport de référence nous apprend que désormais dans le monde, on s'informe davantage via les réseaux sociaux et les plateformes vidéo que via les médias traditionnels.
Oui, l'Institut Reuters, rattaché à la prestigieuse université d'Oxford, a interrogé pas moins de 100 000 personnes dans 48 pays différents. Et résultat est sans appel, 54% des répondants disent s'informer en se connectant aux réseaux sociaux ou aux plateformes vidéo. Ça monte même à 56% si on ajoute les intelligences artificielles comme ChatGPT, contre 52% pour la télévision, 51% pour les sites et applications de médias et seulement 21% pour la radio. C'est encore plus vrai quand on regarde du côté des jeunes de moins de 24 ans. Plus d'un sur deux s'informe principalement via les réseaux sociaux. À l'inverse, seuls les plus de 45 ans le font principalement en regardant leur poste de télévision. Alors, tout cela est une tendance de fond depuis quelques années, mais voilà, c'est la première fois que les médias traditionnels cèdent leur place de première source d'information. Et puis, l'autre enseignement important, seuls 37% des sondés ont confiance dans les médias. Jamais ce chiffre n'était tombé aussi bas.
Alors le rapport écrit à propos de l'intelligence artificielle que c'est, je cite, le plus grand défi auquel sont confrontés les patrons des médias et aussi les décideurs politiques. Je vous dis ça parce que là, à l'instant, ce matin, le Premier ministre Sébastien Lecornu annonce que la France va investir 655 millions d'euros supplémentaires dans le développement en France de l'intelligence artificielle via notamment un outil conversationnel généralisé d'intelligence artificielle pour 1 million d'agents de la fonction publique.
C'était le journal de Quentin Vinet.